Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Chers auditeurs de Radio Kapi, bonjour et bienvenue. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter ce midi. C'est un plaisir de vous présenter les principaux titres de l'actualité. Restez avec nous pour découvrir les nouvelles les plus importantes de ce jour. Après deux jours de combats entre le rebelle du M23 et les combattants Wazalendo dans la région de Masisi Centre, un calme s'observe ce vendredi. On déplore des morts, notamment parmi les civils, des dégâts importants et des déplacements de population. Accalmie observée notamment dans la région des Fataki, territoire de Djougou, en Ituri, après des affrontements répétés entre les miliciens de la Codeco et les soldats ougandais basés à Bethléem. Cette accalmie a permis aux chauffeurs de véhicules bloqués depuis des jours de reprendre leur route. Autisme ou trouble de spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental dont les premiers signes apparaissent généralement avant l'âge de 3 ans. Les personnes autistes peuvent présenter divers symptômes allant des difficultés de langage au comportement répétitif. Comment prendre en charge une personne autiste? Radio Kapi a abordé cette question à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme le 2 avril avec Joachim Mukau-Ebuel, psychopathologue et promoteur du centre d'évaluation et d'intervention pour enfants avec autisme et handicap mental. Il est l'invité du journal. Gisèle Cage à la présentation de ce journal. Commençons par le Nord Kivu. La situation est relativement calme ce vendredi matin dans la région de Masisi Centre. Après deux jours consécutifs des combats entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo, des sources concordantes rapportent des morts parmi les civils et la fuite de nombreux habitants vers l'hôpital général de Masisi. Le point avec Jean Gandou.
Des sources hospitalières à Masisi rapportent qu'au moins deux personnes ont trouvé la mort au cours de ces combats et une dizaine d'autres blessées par balles sont prises en charge à l'hôpital général de Masisi Centre. La même source parle également des dégâts matériels, notamment des quelques maisons détruites par deux tirs et signale aussi quelques cas de pillage. Toujours selon la même source, les habitants qui ont fui leurs maisons pour trouver protection au sein de l'hôpital ont peur de retourner chez eux. Ils craignent d'éventuelles hostilités entre les deux forces. Malgré les tentatives de Wazalendo, Masisi Centre est toujours sous contrôle des rebelles. Selon les sources concordantes, la situation demeure donc volatile et imprévisible, car la population redoute l'aggravation de la crise avec la reprise des combats.
Les soins de santé rencontrent de sérieux problèmes dans les hôpitaux du Sud Kivu, qui autrefois bénéficiaient de subsides en produits pharmaceutiques de la part des organisations humanitaires. Depuis le déclenchement de la guerre, les activités des humanitaires au profit des institutions médicales, notamment dans les hôpitaux ruraux, ont été suspendues, rendant les médicaments rares. L'hôpital général de référence de Shabunda, dont les territoires du même nom, en est un exemple typique. La gratuité de la maternité y est appliquée dans un contexte où le médecin manque d'entrants. Joseph Mpesseni, coordonnateur de l'association Action pour la promotion des droits de l'homme et le développement au Congo, décrit le tableau sombre de cet hôpital dont la vocation est d'administrer des soins de qualité aux malades du territoire de Shabunda.
Au niveau de l'hôpital, il se pose un problème. Les patients ne savent pas comment se faire soigner et ils trouvent la mort. Les hôpitaux ne savent pas couvrir certains traitements. La gratuité de la maternité, de la césarienne est devenue insupportable par manque de produits pharmaceutiques. Deux plaquettes de paracétamol qui se vendaient à 500 francs s'achètent aujourd'hui à 2000 francs congolais. Un basteur de sérum qui se vendait à 4000 francs s'achète aujourd'hui à 15000 voire 20000 francs congolais. Nous demandons aux politiciens, au gouvernement congolais, de bien vouloir tenir compte de la vie de la population que de leurs propres intérêts en sacrifiant le peuple souverain.
En Ituri, une accalmie précaire est observée depuis une semaine dans la région de Fataki, située à 105 km au nord de Bunia, dans les territoires des Djougou. Cette accalmie fait suite à des affrontements répétés entre les miliciens de la Codeco et les militaires ougandais basés à Bethléem, près de Fataki. Selon l'administrateur du territoire des Djougou, cette accalmie résulte des consultations menées la semaine dernière par le chef d'état-major général adjoint des FARDC, chargé des opérations et renseignements avec les communautés locales et les UPDF. En conséquence, le trafic a repris sur la route nationale numéro 27. Martial Kizabiamungu.
C'est depuis le 27 mars dernier que les armées se sont tues à Bethléem, dans la région des Fataki, cette localité où est érigée la base de militaires ougandais et qui a été le théâtre des affrontements entre ces derniers et des miliciens des URDPC bar Codeco. La Codeco qui n'a pas digéré l'installation des troupes ougandaises dans cette entité. Pendant des semaines, les deux forces se sont affrontées presque quotidiennement ici, ce qui a contribué à la dégradation de la situation sécuritaire qui a commencé déjà à se stabiliser. L'administrateur du territoire d'Indjougou invite tous les groupes armés actifs dans son entité à consolider cette accalmie pour un retour définitif de la paix durable. Rifin Mapela.
Aux groupes armés de suivre ce qu'on a mis comme stratégie de mutualisation entre la FRDC et l'armée ougandaise pour que la paix revienne totalement dans l'ensemble du territoire d'Indjougou.
Cette accalmie dans la région des Fataki qui a permis à plusieurs véhicules de fréquenter de nouveau la route nationale numéro 27 entre Bunia et Mahagi, ce qui a eu comme conséquence la baisse des prix de certains produits de première nécessité sur le marché de Bunia. Martial Kiza Biamungu, Bunia. Radio Kapi.
Dans les territoires de Lubero, Nord Kivu, la société civile du secteur de Bapéré alerte sur la mauvaise état de la route Butembo-Mangourjipa, longue de 100 km. Cette route en terre battue est parsemée de nids de poules et des caniveaux bouchés. C'est long, cette organisation citoyenne. En conséquence, les eaux se déversent sur la route, rendant la vie difficile aux usagers. Samuel Kageni, président de cette société civile, appelle la tributaire de cette route a facilité le déplacement des usagers qui payent pourtant de frais à chaque péage routier érigé par la société de service Vihumbira chargée de l'entretien de cette route. Samuel Kageni s'est exprimé au téléphone de Guylaine Kassassia.
La route Butembo-Mangourjipa présente encore des difficultés sur ce plan entretien. Ça fait plus de 8 mois sans que cette route puisse être entretenue et pourtant il y a un attributeur qui est affecté dans cette route d'intérêt provincial. Mais malheureusement, cette route est abandonnée et pourtant les usagers sont en train de payer de l'argent auprès de l'attributeur. Et c'est pourquoi nous référons bien sûr à nos assises que nous avons effectuées avec la délégation de l'attributeur. Nous comprenons que l'attributeur n'a pas respecté tout ce qu'il avait dû parce qu'il disait que pendant le mois de janvier jusqu'à mars, il aura au moins à entretenir la route parce que c'est une période de la sécheresse. On devrait facilement entretenir et affecter les cantonniers. Mais depuis tout ces temps, il n'y a aucun cantonnier dans la route et notre inquiétude, c'est que cette route risquerait encore d'être coupée. En tout cas, l'attributeur devrait aussi songer à la route parce que nous entamons la période tellement pluvieuse où il y aura des difficultés, il n'y a plus des terrasses tout au long de la route et ces différentes eaux se déversent encore dans la route.
La société de service Vuumbiria, responsable de l'entretien de cette route, a été contactée et promet de se prononcer dans les jours à venir. Dans la province du Maniema, un cadre de concertation réunissant les acteurs de la société civile de toutes les plateformes a été mis en place. Ce cadre a pour mission de traiter en interne tous les conflits susceptibles de diviser les acteurs de la société civile. Cette initiative découle des résolutions de la table ronde de 3 jours sur la redynamisation de la société civile du Maniema organisée par l'église Mangembo. Florence Kizalunga pour plus de précisions.
Pour le révérend pasteur Jacques Samine, représentant de l'église Mangembo au Maniema, il était question dans cette rencontre de rappeler aux uns et aux autres leur rôle et comment résoudre pacifiquement leurs problèmes.
Notre but vraiment était qu'ils trouvent un cadre de concertation où ils peuvent commencer à se parler de l'interne leurs problèmes par rapport à la gouvernance citoyenne.
Le membre de confession religieuse salue l'initiative et croit à un changement de comportement. Évêque Timothée Assani.
On a traité beaucoup de thématiques. Vous savez, nous, en tant que religieux, nous visons sur l'unité, nous visons sur l'harmonie, la paix, la concorde. Et nous avons la foi que les résolutions assorties de cette table ronde feront en sorte qu'il y ait quand même un plus qui s'ajoute dans ce cadre de concertation.
De l'autre côté, l'ONG Hakiza Binadamu émet le vœu de voir la société civile du Maniema vivre et travailler dans l'unité. Raphaël Oupelele.
Nous sortons regaillardis. Nous émettons le vœu de voir la société civile du Maniema se mettre ensemble. Nous sommes conscients que nous allons nous retrouver à l'unité. Ce n'est pas impossible.
Sachez que c'est la salle polyvalente Kronk Maniema qui a servi de cadre à ces assises. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Parlons culture à présent. 4 ans après l'inscription de la rumba de deux rives du Congo sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, les participants à l'atelier sur la convention 2003 axée sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel visent à mettre en place et intensifier des activités pérennes labellisées rumba congolaise. Cet atelier organisé à Kinshasa le 3 et 4 avril par la commission nationale chargée de la valorisation de la rumba avec le soutien du bureau de représentation de l'UNESCO en RDC propose plusieurs actions dont la création d'un observatoire et d'un festival international de la rumba ainsi que la mise en place d'un véritable musée dédié à la rumba. Professeur André Yoka, président de la commission nationale chargée de la valorisation de la rumba, s'est exprimé au micro de Jean-Marc Matwaki.
Le terme central, c'est la valorisation. Qu'est-ce que ça veut dire valorisation? Mais passer au concret, passer au chantier. Chantier de quoi? Musée de la rumba. Chantier de quoi? Festival international de la rumba. Chantier de quoi? Observatoire de la rumba, etc., etc. Autant de projets à court et à long terme. Pour que véritablement, nous quittions les rêves du divertissement pour le divertissement, pour le rêve de l'économie de la culture. Des industries culturelles créatives, comme on dit aujourd'hui. C'est ça le rêve. Je ne sais pas si on y parviendra. Mais on a besoin de tout le monde, on a besoin de vous. Parce qu'il y a des mentalités qui résistent. Les mentalités qui croient que la rumba, c'est du divertissement. C'est aller à Bercy, c'est aller à Arena. Et quand on en revient, quels sont les dividendes? C'est la question.
Sachez que la cérémonie du lancement de cet atelier a été présidée par la directrice de la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine en présence du représentant de l'UNESCO en RDC. Une nouvelle cité appelée Jardin de Kinshasa est en construction dans la commune de Lancélé. L'entreprise Moderne Construction a commencé le travaux il y a plus d'un mois. Le projet vise à construire des logements abordables sur le site. Cependant, le prix fixé pour chaque logement semble déjà hors de portée pour la population urbano-rurale de la commune de Lancélé. Les détails avec Askan Zibia Tayoro.
C'est sur un espace de 340 000 m² de RVA que l'entreprise a entamé le travaux. Le site est clôturé par des images décrivant les infrastructures qui y seront construites, entre autres la construction de plus de 5 000 logements. Les bâches affichées aux alentours du site fixent pour une maison de 2 pièces à $59,900 et celle de 3 pièces à $79,900. Des montants qui ne semblent pas être abordables pour la population urbano-rurale de la commune de La Célé.
C'est un district des gens qui sont pauvres. La plupart de nos vies sont précaires. Et je ne crois pas que quelqu'un peut louer une maison ici de $50,000 ou bien acheter une maison de $50,000. Peut-être les gens qui viendront de Gombe, ils viendront acheter ou bien des politiciens ou bien des grands commerçants. Sinon, ce sont des maisons qu'ils construisent pour des gens qui ont beaucoup d'argent.
Sur place au chantier, rien n'indique qui en est le maître d'ouvrage. Juste des banderoles qui renseignent que les travaux de la construction de la nouvelle cité s'effectuent sous le haut patronage du chef de l'État et les auspices de la première ministre, ministre des Affaires foncières et de l'urbanisme et habitat.
À Banzangungu, au Congo central, la divagation des vaches de la société de grand élevage Ndama En Afrique centrale, Sogenac cause la destruction de plusieurs hectares de champs de diverses cultures. Cette situation se déroule dans la localité de Konzo, Kimpunza, groupement Tangwa, secteur de Kwilungongo. Victor Mbembe, acteur de développement, a informé Radio Kapi que la destruction des champs par ces bêtes entraîne un risque élevé de famine et d'aggravation de la pauvreté dans cette région du Congo central. Il affirme que même après l'évaluation des dégâts causés par les vaches de l'entreprise Sogenac, la procédure d'indemnisation est biaisée, ce qui décourage les agriculteurs. Écoutons Victor Nzonzimbembe, acteur des développements du secteur de Kwilungongo, dont ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Au mois de mars, au village Mongo Mansongoni, il y a eu ce scandale où les vaches, non seulement elles ont détruit les cultures des paysans, mais surtout on a retrouvé deux vaches mortes dans la rivière Mansongonia, deux vaches qui se sont décomposées dans la rivière Mansongonia, rivière qui est utilisée par les paysans pour leurs travaux de vaisselle, lessive et pourquoi pas consommation d'eau. Malheureusement, aujourd'hui, on parle encore de ces vaches de la compagnie Sogenac au village Konzo Kimpanzo, groupement de Tungwa, où les vaches détruisent les cultures des paysans. On se demande qu'est-ce qui fait que ces vaches sont toujours en divagation, qu'est-ce qui fait que l'État ne prend pas de mesures sévère contre la divagation. Plus grave encore, quand il s'agit des inventaires des enquêtes pour indemniser le paysan dont les cultures ont été détruites, il y a des problèmes très sérieux parce que les calculs sont effectués sur base, on ne sait pas, d'un protocole qui a été élaboré à l'époque de la dictature, s'il faut le dire ainsi, où le rendement de manioc est réduit à 7 tonnes l'hectare, alors qu'aujourd'hui, avec les nouvelles variétés, on parle de 20 à 30 tonnes à l'hectare. Donc, ça décourage. Lorsqu'on détruit vos cultures, vous n'avez presque rien à récupérer.
Actualité internationale.
Au moins 40 personnes ont été tuées mercredi 2 avril dans une série d'attaques des villages dans le centre du Nigeria, selon un nouveau bilan fourni ce vendredi par le gouvernement local et la Croix-Rouge après un précédent bilan de 10 morts. Nous avons enterré hier plus de 30 personnes, a déclaré un responsable du gouvernement local de l'État du Plateau, affirmant qu'un total de 48 corps ont été retrouvés après une série d'attaques mercredi. En Birmanie, l'armée birmane a poursuivi ses attaques dans les zones frappées par un puissant séisme malgré l'instauration d'un cessez-le-feu temporaire accusé ce vendredi. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, l'armée a mené au moins 53 attaques, notamment des frappes aériennes et de drones, des tirs d'artillerie et des paramoteurs dans les zones touchées par le séisme. Au moins 14 attaques militaires ont été signalées depuis le cessez-le-feu temporaire entré en vigueur le 2 avril, a dénoncé le porte-parole du Haut Commissariat lors d'un briefing à Genève.
L'invité.
Promouvoir la neurodiversité et les objectifs de développement durable est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de l'autisme observée chaque année le 2 avril. Quelle structure d'encadrement peut-on mettre en place pour ce handicap mental et quelle est sa prise en charge en RDC? Pour en discuter, Gloria Lutula Kitoko reçoit Joachim Mukau Ebuel, psychopathologue et promoteur du centre d'évaluation et intervention pour enfants avec autisme et handicap mental. Suivez leur entretien.
Bonjour Monsieur Joachim Mukau. Quels sont les défis que vous rencontrez dans les traitements?
Un très grand défi, c'est le financement même dans la prise en charge. Vous voyez que la prise en charge des enfants qui ont l'autisme, c'est une prise en charge qui est tellement coûteuse, qui est multidimensionnelle, multidisciplinaire. Une prise en charge multidisciplinaire, ça fait qu'autour d'un même enfant, on peut avoir plusieurs spécialistes qui interviennent. La prise en charge d'un enfant qui a l'autisme est assurée, n'est-ce pas, par l'État. L'État appuie sur le plan financier. Mais dans notre pays, c'est encore les parents qui se battent pour essayer de voir comment on peut réussir, n'est-ce pas, à assurer la prise en charge de l'enfant qui a l'autisme. Voilà un peu un certain nombre de défis auxquels nous confrontons dans la prise en charge des enfants qui ont l'autisme.
Quel est le message que vous passez auprès des familles qui ont tendance à cacher ou à minimiser, ceux qui ne savent pas quoi faire, d'autres qui ne savent pas où emmener leurs enfants qui sont atteints de l'autisme?
Merci beaucoup pour cette question. Qu'est-ce que je vais demander aux parents? Je demande aux parents de pouvoir, toutes les fois que le parent constate qu'il y a que son enfant ne parle pas, à l'âge où il doit parler. Vous savez qu'un enfant qui est âgé de 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7, 8 mois, peut babiller, peut faire ba, 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 la, 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 et puis transformer les babillages en syllabes significatives ou en mots significatifs selon l'habitude du langage de la famille. L'enfant peut dire papa, maman, peut dire yaya, peut dire lipa. Mais lorsque vous remarquez qu'un enfant n'arrive pas à développer les compétences du langage oral ou qu'un enfant a commencé à développer les compétences du langage oral et que ses compétences sont arrêtées ou il n'arrive pas à avancer dans le développement du langage oral, il faudra rapidement contacter les spécialistes. Il est vrai que le premier spécialiste que les parents peuvent voir, c'est le pédiatre lorsque c'est un enfant. Mais en ce moment-là, lorsque le pédiatre est renseigné, il a l'information que des caractéristiques de l'autisme, le pédiatre va essayer d'envoyer les enfants vers nous. Il peut m'appeler, il peut appeler certaines autres personnes qui travaillent dans le domaine. Lorsque vous pensez que, parce que dans votre famille, vous avez parlé en retard et que votre enfant parlera aussi en retard, plus vous tardez, grande est... Et n'est-ce pas la capacité que cet enfant puisse, que le retard de développement du langage puisse alourdir. Donc, il faudra pas traîner. Du moment où vous remarquez que l'enfant a des difficultés à développer le langage oral, donc la parole, il faudra rapidement consulter afin de nous permettre de poser les diagnostics précocement et de mettre en place un système de prise en charge précoce qui peut faciliter n'est-ce pas, afin que l'enfant développe ses compétences. Donc, à ce moment-là, les parents ne peuvent pas cacher les enfants. Par contre, ils doivent venir afin que nous puissions les aider à mettre en place un système de prise en charge. Voilà un peu ce que je peux dire au niveau des parents. Toutes les fois que le parent constate un problème du développement chez leurs enfants, vous pouvez m'appeler au 081-1935-202. Ou bien au 089-50-41-781. Vous m'appelez et nous allons essayer de mettre sur pied un système de diagnostic. On élabore le bilan afin que nous puissions aider l'enfant à ce qu'il puisse aider l'enfant pour son développement.
Monsieur Joachim Moukaou, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Joachim Moukaou Ebouel, psychopathologue et promoteur du Centre d'évaluation et d'intervention pour enfants avec autisme et handicap mental, s'entretenait avec Gloria Lutula Kitoko. Ainsi s'achève ce journal sur Radio Capi, à la mise en onde de Jean-Claude Nsiala, coordination Jacques-Yves Moulima, supervision Jude Mister Bilanda, présentation Gisèle Cage. Pour suivre autrement le programme de votre radio, restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Merci de tout cœur pour votre fidélité à Radio Capi. Je vous retrouve demain sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.